Votre adolescent, fille ou garçon, rentre de l'école de très mauvaise humeur. Il est nerveux et irritable toute la soirée. Il n'exprime pas ses sentiments et donne l'impression de s'être battu toute la journée. Pourquoi cette situation? Comment pouvez-vous, en qualité de parent, faire face à ce problème et aider votre adolescent à surmonter cette période difficile de sa vie, marquée par le conflit ouvert et la haine? Pour trouver une réponse à ces questions, restez donc à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet. Soyez les bienvenus à cette émission en compagnie du docteur Dobson, psychologue et conseiller familial bien connu. Docteur, beaucoup de parents sont affolés de voir leur enfant qui, à 12 ans, était si heureux, satisfait et coopératif, se transformer brusquement en un adolescent de 13 ans renfermé, colérique et dépressif. Quelle est la cause de cette transformation et comment les parents peuvent-ils réagir face à ces nouvelles tensions dans la famille?
Vous savez, Pascal, dans les premières années de la puberté, les adolescents doivent se battre contre deux forces puissantes qui les assaillent et les submergent. La première et la plus importante est d'origine hormonale. Je crois que les parents et même les spécialistes du comportement ont toujours sous-estimé l'impact des changements biochimiques qui se produisent à la puberté. L'effet de ces hormones se fait ressentir dans le développement physique, mais aussi au niveau du cerveau, où il se passe quelque chose de tout aussi renversant. Sinon, comment expliquer la transformation psychique que vous venez de décrire?
Par les pressions sociales, peut-être?
Certains spécialistes diraient cela, oui. Mais je n'arrive pas à y croire. Les caractéristiques émotionnelles d'un adolescent qui devient subitement rebelle me font plutôt penser aux symptômes du syndrome prémenstruel, des ménopauses difficiles chez les femmes ou à la crise de l'âge mûr chez les hommes. De toute évidence, il se passe des changements radicaux à l'intérieur du corps humain. Et si ce bouleversement était uniquement causé par des facteurs extérieurs, il n'apparaîtrait pas de façon aussi prévisible à la puberté. L'état de crise d'un adolescent coïncide parfaitement avec l'arrivée de la maturité physique, et je suppose que ce n'est pas un hasard. Apparemment, pour assurer le passage de l'enfant à l'adulte, la chimie humaine a l'air de se dérégler pendant quelques années, affectant autant l'esprit que le corps.
Si cette explication est correcte, qu'est-ce que cela signifie pour les parents de préadolescents?
Le fait même de comprendre ce bouleversement glandulaire, Pascal, rend les choses plus supportables, tout en aidant à faire face à la crise émotionnelle qui éclate à ce moment-là. Pendant plusieurs années, certains enfants ne sont pas très rationnels. Alors, ne désespérez pas quand tout ce que vous avez essayé d'enseigner à votre enfant semble avoir été jeté aux oubliettes. La métamorphose qu'il est en train de vivre chamboule tout son être. Laissez-lui un peu de temps. Un jour ou l'autre, il finira bien par retomber sur ses pattes.
Donc, la première grande force à laquelle les adolescents doivent faire face est d'origine hormonale. Quelle est la seconde?
La seconde est d'ordre social. C'est un fait qu'un enfant de 12 ou 13 ans s'éveille soudain à un monde totalement nouveau pour lui, comme si ses yeux s'ouvraient pour la première fois. Il est entouré de compagnons du même âge qui lui font peur. Sa plus grande crainte, qui dépasse de loin sa peur de la mort, c'est la possibilité d'être rejeté par ses copains ou humilié devant eux. Cette angoisse déterminera sa vie pendant plusieurs années et le poussera à faire des choses jugées insensées par les adultes. Il est impossible de comprendre un adolescent si l'on ne tient pas compte de cette angoisse qu'il ressent par rapport à ses copains.
Comment expliquez-vous une peur sociale aussi paralysante à un âge auquel on accepte facilement d'autres dangers? Après tout, les adolescents sont connus pour ne pas avoir froid aux yeux. Pourquoi auraient-ils tellement peur de leurs copains de classe?
Je crois qu'il faut chercher la réponse dans l'éblouissement qu'exerce le pouvoir et son influence sur le comportement. Le monde des adolescents est régi par la loi de la jungle. C'est le cœur même de son système de valeurs. Bien entendu, la forme varie selon les cas. Pour les filles, il n'y a pas de pouvoir social plus grand que la beauté physique. Quant aux garçons, bien que chez eux l'apparence physique compte aussi, ils obtiennent plutôt le pouvoir par des exploits sportifs, une attitude décontractée, ou si vous préférez, une attitude cool, dans les moments de pression. Et bien sûr, par la démonstration de leur force physique. Si vous réfléchissez à votre propre adolescence, vous vous souviendrez aussi de vos luttes pour le pouvoir. Ces combats sont peut-être plus physiques pour les jeunes hommes que pour les jeunes filles, mais les résultats sont les mêmes. Certains adolescents imposent leur goût et leur volonté aux plus faibles qu'eux. Dans le fond, il ne s'agit pas vraiment de dominer, mais de soigner leur image personnelle. En effet, à cet âge, l'estime de soi dépend totalement de l'acceptation des copains. Et c'est pourquoi le groupe exerce une telle influence sur l'individu. Si l'on se moque de lui, le méprise, le ridiculise ou le rejette, en d'autres mots, si on lui refuse tout pouvoir, son égo fragile s'effrite.
Et ça, c'est bien pire que la mort.
Oh, sans aucun doute. Surtout pour l'enfant qui ne réussit pas à l'école. Il tombe carrément dans une panique sociale. Pour aider les parents à faire face à toutes ces tensions propres à l'adolescence, je voudrais leur donner trois idées dont beaucoup ont déjà pu profiter. Premièrement, l'ennui représente un réel danger pour les adolescents pleins d'énergie. Il faut les faire bouger sans arrêt. L'adolescent difficile ne devrait pas disposer de beaucoup de temps libre. Sinon, il trouvera des façons destructives de l'utiliser. Je vous conseillerais de l'encourager à se joindre au groupe de jeunes d'une église, le plus dynamique que vous puissiez trouver. Il existe aussi le sport, la musique, ou un contact avec les animaux, l'équitation par exemple. Ou alors, trouvez-lui un travail après l'école et pendant les vacances. Vous devez veiller à ce que cet enfant soit constamment occupé. Deuxièmement, ne vous amusez pas à le déstabiliser. Si la vie peut être comparée à une rivière sur laquelle chaque personne avance en pagayant dans son propre canoë, faites tout ce que vous pouvez pour que votre enfant puisse traverser les rapides de l'adolescence le mieux possible. À première vue, cette image n'a rien d'extraordinaire, mais je crois que pour bien des familles, elle sera précieuse, spécialement pour ceux qui ont plusieurs enfants difficiles. Cet avertissement s'adresse particulièrement aux parents idéalistes et perfectionnistes, déterminés à ce que chacun de leurs adolescents se distingue et atteigne le niveau le plus élevé. En exigeant de tels résultats, un parent peut mettre en péril une embarcation déjà sérieusement menacée par les rapides. Peut-être qu'un autre enfant pourrait supporter des turbulences plus fortes, mais nous parlons ici d'un adolescent fragile, qui manque pour le moment de bon sens et tendrait même vers un comportement irrationnel. Ne déséquilibrez pas son bateau plus que nécessaire.
Pouvez-vous nous préciser votre pensée, docteur? Comment un parent pourrait-il déstabiliser le bateau d'un adolescent?
En faisant toute une histoire pour un problème qui n'a pas de grande signification morale, par exemple. Il y aura plus tard bien assez de vrais problèmes qui exigeront une fermeté intransigeante. Gardez donc vos munitions pour ces affrontements-là. Pour être clair, je répète que ce conseil ne s'applique pas à tous les adolescents. L'approche d'un enfant facile, qui travaille bien à l'école, a des amis formidables, une conduite exemplaire et qui aime ses parents, n'est de loin pas aussi délicate. Mais celui qui me préoccupe, c'est l'adolescent qui risque de se lancer tête baissée dans les chutes de la vie en y détruisant son embarcation. Il est très colérique à la maison et se fait influencer par une bande de copains douteux. Soyez très prudent avec lui. Choisissez soigneusement les terrains sur lesquels il vaut la peine de vous battre. N'exigez pas la perfection dans les domaines qui n'en valent pas vraiment la peine. Aidez simplement votre adolescent à passer ce mauvais cap.
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Eh bien, cela veut dire qu'il faudra peut-être tolérer que sa chambre ressemble à un dépotoir pendant un certain temps. Ce n'est pas que j'approuve la paresse, le désordre, l'indiscipline, mais quand je pense à la panique que peuvent parfois provoquer cette jeune fille ou ce jeune homme lorsqu'ils sont en colère, je dirais qu'une chambre qui n'est pas bien rangée n'a peut-être pas tant d'importance. Vous devrez sans doute aussi faire des concessions concernant le genre de musique qu'il écoute. Je ne recommande pas le hard rock ni le heavy metal qui sont saturés de sexe et de violence. Mais si vous refusez à un enfant à forte volonté le privilège de pouvoir écouter la musique à la mode, vous allez peut-être faire couler son canoë pour une question qui n'en vaut pas la peine. La philosophie que mon épouse et moi-même avons appliquée à nos enfants pourrait s'appeler « lâcher du lest et serrer la vis ». Je veux dire par là que nous avons essayé de lâcher du lest pour toutes les choses mineures qui n'avaient pas une valeur capitale et de serrer la vis pour tout ce qui était essentiel. Nous avons cherché à dire oui chaque fois que nous le pouvions pour nous réserver un non occasionnel et ainsi lui donner davantage de poids. Et ce qui était probablement encore plus important, c'est que nous avons essayé de ne jamais trop nous distancer de nos enfants sur le plan affectif.
Oui, j'imagine que ça pourrait être dangereux.
En effet, Pascal, il n'est pas très prudent de rejeter un fils ou une fille, quelle que soit son attitude insensée, irritante, égoïste ou immorale. Il faut que vous soyez là pour eux, non seulement quand leur canoë tangue dangereusement, mais aussi quand la rivière s'est à nouveau apaisée. Vous avez le restant de votre vie pour reconstruire cette relation chancelante, mais ne laissez pas la colère vous paralyser trop longtemps. Faites le premier pas vers la réconciliation. Efforcez-vous de ne pas harceler vos enfants. Ils ont horreur de cela. Si vous leur faites constamment des reproches, ils sont presque obligés de faire la sourde oreille pour se protéger. Continuez à les traiter avec respect, même lorsque des punitions ou des restrictions sont nécessaires. Il arrivera même de temps à autre que vous ayez besoin de leur dire « Je te demande pardon » ou « Tu sais, j'ai eu tort d'agir ainsi, pardonne-moi. »
Docteur, quel est le dernier conseil que vous donneriez aux parents d'adolescents?
C'est de vous ménager des unités de réserve. C'est un point stratégique. Un bon général n'enverra jamais toutes ses troupes au combat en même temps. Il gardera des troupes en réserve pour remplacer les soldats épuisés sur la ligne de front. Je souhaiterais tellement que les parents d'adolescents fassent la même chose. Au lieu d'investir tout leur temps et leur énergie dans leurs affaires, ils ne gardent rien en réserve pour les affrontements occasionnels. Élever des adolescents vifs est à la fois une expérience passionnante, enrichissante, mais par moments aussi frustrante. Leurs hauts et leurs bas imprévisibles déteignent sur votre humeur. Gardez donc un peu d'énergie en réserve pour faire face aux situations qui risquent de s'envenimer. Pour vous aider à traverser les temps agités de l'adolescence, voici 4 conseils. Maintenez un emploi du temps simple, pas trop chargé. Reposez-vous suffisamment. Prenez des repas nourrissants et équilibrés. Et enfin, passez du temps dans la prière pour vos enfants.
Si vous avez un préadolescent ou un adolescent à la maison, vous avez probablement été très sensible aux propos du docteur Dobson. Les troubles de l'adolescence n'ont pas seulement un effet sur le jeune homme ou la jeune fille en question, mais aussi sur chaque membre de la famille. Nous espérons que les conseils que vous venez d'entendre aujourd'hui vous aideront à mieux supporter les difficultés de la relation parent-adolescent dans votre foyer. Cette émission a été réalisée par La Famille Aujourd'hui avec des éléments tirés du livre « Parenting isn't for cowards » publié par World Books, un titre que nous pourrions traduire par « Être parent n'est pas pour les lâches ». Urshkis Faloudi prêtait sa voix au docteur Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous retrouver bientôt pour une nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui.